Radio Okapi. Le journal Delila Bosuma.
À la une, plusieurs acteurs de la société civile et membres des organisations des jeunes de Lubero, Nord Kivu, vivent en clandestinité depuis plusieurs jours. Ces personnes craignent d'être la cible du M23 pour avoir dénoncé par le passé des exactions commises par ces rebelles et leur soutien, rapporte la société civile de Lubero. À Mbandaka, cet appel de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, l'OSEF invite les administratifs des parquets à mettre un terme aux pratiques de corruption, appel lancé lundi au cours d'un atelier de sensibilisation. Et puis, le centre hospitalier Mankole de Kinshasa organise depuis lundi une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus. Pour en parler, nous recevons Dr Céline Tendobi, gynécologue obstétricienne dans cet hôpital. À tous et à toutes, bonjour. Commençons par le Nord Kivu. Plusieurs acteurs de la société civile et membres des organisations des jeunes du territoire de Lubero vivent dans la clandestinité depuis plusieurs jours. C'est après l'occupation des agglomérations de Kanyabayonga, Kirumba et Kaina par la rébellion du M23. Selon le rapporteur de la société civile de Lubero, ces personnes craignent d'être la cible du M23 pour avoir dénoncé dans le passé des exactions commises par ces rebelles et leur soutien. Hilaire Kamabou, rapporteur de la société civile de Lubero, explique la situation. Il est joint par Martial Papi Mukeba.
Nombreux vivent dans la clandestinité. Par exemple, même le président de la coordination société civile territoire de Lubero, lui aussi, il est dans la clandestinité. Il y a certains jeunes des organisations de la jeunesse. Ils sont aussi dans la forêt en train de fuir parce que les gens là qui conduisent ces M23, ils peuvent donner des éléments, dire que voici là qui ont toujours donné des alertes pour dénoncer ce que vous faites. Alors toutes ces personnes-là qui donnent des alertes, qui donnent des dénonciations, ils sont des fouillards de par-ci par-là dans leurs entités respectives. Maintenant, nous sommes infiltrés. C'est la même personne avec qui vous êtes peut-être qui va même vous dénoncer auprès de l'ennemi, dire qu'il est telle part. Alors, raison pour laquelle nous avons des craintes par rapport à leur situation actuelle.
Nord Kivu toujours, dans le territoire de Beni, la nouvelle société civile du groupement de Basongora appelle la population et la jeunesse en particulier à redoubler de vigilance à Kasindi-Lubiria, cité frontalière de l'Ouganda située à 90 km de la ville de Beni. Cet appel est lancé à la suite de l'occupation par les rebelles du M23 de certaines agglomérations du territoire voisin de Lubero. Le coordonnateur de cette structure citoyenne demande également aux services de sécurité de tout mettre en œuvre pour que Kasindi-Lubiria ne constitue également une autre porte d'entrée pour ces rebelles. Serge Kalenga, coordonateur de la société, nouvelle société civile du groupement de Basongora, joint par Marc Marofimbo.
Pour ceux qui gèrent la frontière, c'est un grand temps qu'ils fournissent des efforts pour essayer de mettre en place des stratégies assez efficaces pour essayer de barrer la route à ces mouvements. Que personne n'ignore que ces M23 sont très intelligents et ils peuvent des fois se déguiser à une personne civile pour essayer de franchir la frontière, d'aller calme et nous causer des problèmes dans les jours à venir. Alors c'est au service des sécurités affectées au niveau de la barrière de multiplier des stratégie sécuritaire pour essayer de barrer la route à ces mouvements dans les buts de fouiller tous les véhicules pouvant passer au poste frontalier de Kasindi. Alors c'est pour nous, étant que population de la place, de pouvoir nous préparer en conséquence tout en dénonçant tout cas suspect qui peut parfois s'observer dans les chefs de la population ainsi que dans les coins et recoins de la cité de Kasindi. Sans la dénonciation, sans les alertes, nous ne pouvons absolument rien vu notre vulnérabilité.
Restons dans cette partie du Nord Kivu où le président du conseil local de la jeunesse de Kantine Lubena appelle les jeunes de cette localité à ne pas recourir à la justice populaire. Cet appel intervient au lendemain du lynchage d'un jeune à Kantine Aloya accusé d'appartenir au groupe rebelle des EDF. Tchétché Aliamini encourage les jeunes à continuer à faire confiance aux autorités et à dire non à la manipulation qui débouche souvent sur des actes de justice populaire. Le président du conseil local de la jeunesse de Kantine est joint par Marc Marofimbo.
Nous appelons à la population de chez nous, surtout les jeunes de chez nous dans la localité Bassa-Lobena, de ne pas donner place à l'ennemi. La justice populaire n'est pas tout à fait bonne. Chaque fois, si vous trouvez quelqu'un dans votre milieu, dans votre quartier qui n'est pas bien connu, nous devons le remettre aux autorités pour lui donner quelques questions. Et si seulement il sera un ennemi, c'est le service de sécurité qui va lui exploiter et connaître la position de l'ennemi pour que l'ennemi soit neutralisé. Si nous tuons par exemple une personne qui est supposée comme inconnue, tandis qu'il pouvait nous donner quelques informations par rapport à leurs troupes, malheureusement, nous les tuons. Et après, c'est l'ennemi qui est déjà à côté de nous, il va commettre ses exactions, parce que si on ne pouvait pas tuer un inconnu, il pouvait nous donner plus d'informations. Voilà pourquoi nous restons plus en collaboration avec notre force armée de la République démocratique du Congo, car toute manipulation est un jeu de l'ennemi.
Merci de nous recevoir à Mbandaka, chef de la province de l'Équateur. Ici, l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, OSEP, invite les administratifs des parquets à arrêter avec les pratiques de corruption. Appel lancé au cours de l'atelier de sensibilisation lundi au Palais de justice de Mbandaka. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la relance de la justice. Le point avec Paul Richard Malengela.
De plus en plus, estime l'OSEP Équateur, la corruption ronge le secteur de la justice dans la province. C'est pourquoi, après le personnel pénitentiaire, le directeur intérimaire de l'Observatoire a sensibilisé ce lundi au Palais de justice une trentaine de secrétaires des parquets présents en Mbandaka, Emmanuel Bukayolo.
La justice pour tous, ce n'est pas une catégorie qui sont privilégiées. Quelqu'un qui a des moyens, lorsqu'il sollicite auprès d'un secrétaire, son dossier va aller trop vite. Et quelqu'un qui n'a pas de moyens, son dossier va traîner. Toutes ces pratiques, ce sont des antivols, ce sont des corruptions dont nous avons dit qu'ils prônent les valeurs éthiques, d'être pétris de valeurs, les gens qui donnent l'argent à tout le monde.
Les participants disent avoir pris conscience des méfaits de la corruption. Ils se sont plutôt intégrés dans la lutte contre les antivaleurs dans leurs services respectifs. Madame Madomboyo, secrétaire au parquet général de Mbandaka, témoigne.
Entre nous, il y a les autres qui marchent toujours avec les trafics d'influence, que moi je suis secrétaire au parquet, et quand il y a un dossier judiciaire auprès des justiciables, il veut aller demander n'importe quoi, alors ça réduit notre réputation ici au niveau du parquet général et au parquet des grandes instances. Alors, il faut avoir cette éthique-là, donner quand même la dignité de notre service.
La lutte contre la corruption des agents publics est un processus. Ainsi, chaque participant a reçu un exemplaire du code de conduite de l'agent public en vue de pérenniser les acquis de cet atelier. Mbandaka pour Chamalingela, Radio Okapi.
Pendant ce temps, le Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFEDEL, affirme suivre de près et attentivement le dossier forage. Le projet est censé alimenter les communautés locales de la RDC en eau potable. Dans un communiqué rendu public hier, le CREFEDEL dit apprécier la mise en détention des présumés auteurs dans cette affaire, dont l'ancien ministre de développement rural, François Rubota. Mais en même temps, cette organisation exprime ses inquiétudes quant à la tournure que prend l'enquête. Pour son coordonnateur, l'autorisation de quitter le pays accordé à l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi représente une fuite en avant et une manière de brouiller les pistes et de dissimuler les preuves d'un probable détournement des fonds publics. Valérie Madianga, coordonnateur du CREFEDEL, l'a dit à Michel Kifindangoy.
Le ministre des Finances est la clé du système de décaissement des fonds dans notre pays parce qu'il agit en dernier ressort. Ce dernier, d'abord, a posé des actes de décaissement des fonds en mode d'urgence. Et pourtant, la procédure de décaissement à mode d'urgence n'est pas autorisée pour le paiement, par exemple, de ces types d'investissements. Deuxièmement, c'est en principe le ministre du budget qui actionne ces modes de décaissement à mode d'urgence. Ce sont les éléments les plus importants sur lesquels nous pensons que le ministre des Finances ne devrait pas bénéficier de cette faveur. Il est urgent pour que la justice puisse élargir cette enquête. Pour nous, nous pensons que le ministre des Finances a été le déclencheur de toutes les malversations financières que nous sommes en train de décrier actuellement.
Direction la province du Maniema. La commune rurale de Kalima est dans le noir depuis au moins 4 jours. À la base de cette situation, les agents de la société orifère du Kivu et Maniema Sakima réclament le paiement de leur salaire de plus au moins 12 mois. Pour manifester leur colère, ces derniers ont arrêter le travail, selon la société civile Force Vive du Maniema. Antenne de Pangui, cette situation a des conséquences néfastes dans la vie quotidienne des populations. L'abbé Dieudonné Kapolo, président de la société civile Force Vive du Maniema, antenne de Pangui, demande l'implication urgente de toutes les autorités. Il est joint par Florence Kizalunga.
Depuis 4 jours maintenant, la centrale hydroélectrique de Lutsurukulu est intentionnellement mise aux arrêts. Cela semble être la conséquence logique de la grève qu'a déclenché le personnel Sakima depuis un certain temps. Mais cela a des conséquences maintenant sur la vie de la communauté tout entière. Toutes les activités, on a constaté, sont paralysées. Les hôpitaux et les infrastructures d'intérêt communautaire sont préjudiciées, mettant ainsi en danger la vie des vulnérables qui sont à ces endroits. Et les activités même quotidiennes de paisibles citoyens sont préjudiciées. La force du Maniema lance un appel urgent et vibrant aux autorités d'abord de la Sakima, ensuite aux syndicats des travailleurs concernés, de se mettre ensemble autour d'une même table pour trouver une solution négociée. Et ici, nous leur donnons 48 heures pour qu'ils trouvent solution rapidement. Nous demandons l'implication toute particulière des gouverneurs des provinces de s'impliquer d'une façon particulière pour trouver une solution à ces problèmes qui n'a fait que trop durer. Nous demandons aussi au ministère du portefeuille dont dépend la Sakima de donner des orientations claire pour trouver une solution durable à cette crise qui perdure.
Contactez le directeur de Sakima Pangui d'y être limité et se laisse à la disposition de Kinshasa. Dans la province de Maïndombe, les enseignants de la division provinciale de l'EPST Maïndombe 3, dont le siège se trouve à Koutou, sont impayés depuis 3 mois. Le directeur provincial de cette juridiction, qui le dit, indique que cette situation met en difficulté les enseignants qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leur famille. Nestor Ntumbandai en appelle à la responsabilité du gouvernement. Le directeur provincial de la division provinciale de l'EPST Maïndombe 3 explique la situation au micro de Irène Boma.
Au moment où nous parlons, les enseignants de Maïndombe 3 n'ont pas encore touché leur salaire d'avril, de mai et de juin. Mais c'est déjà juillet. Mais nous apprenons que peut-être la Caritas pourra amener l'argent au courant de la semaine pour payer les 2 mois, avril et mai. Donc vous voyez, quelqu'un qui n'est pas payé, comment il va travailler, comment il va relever la qualité de l'enseignement? Nous tenons, nous faisons des efforts et ils nous écoutent quand même malgré eux. Même pour la présentation à la dissertation et à la session ordinaire de leurs enfants, nous avons tourné la tête pour demander des procurations. Ils donnent des procurations pour que les enfants ne ratent pas l'examen d'État. Et dès qu'ils seront payés, ils pourront honorer les frais de participation à l'examen d'État. Maïndombe 3. Donc vraiment, beaucoup de difficultés ici.
Rendons-nous en Ituri. Une centaine de jeunes entrepreneurs ont exposé leurs produits dans une foire organisée dimanche par l'ONG Les Rébâtisseurs. C'était à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Selon les organisateurs, l'objectif de cette initiative est de faire connaître leurs produits au public et d'encourager des nombreux jeunes, notamment à risque, à se lancer dans ce domaine. Ils demandent au gouvernement d'assainir le climat des affaires qui constitue les obstacles majeurs et de rétablir la paix. Le point avec Ezekiel Mousalia.
Cette foire entrepreneuriale offre à une dizaine de jeunes entrepreneurs à Bounia l'opportunité d'étaler leurs différents produits. C'est entre autres un art culinaire, peinture, pâtisserie, des céramiques ainsi que des œuvres d'art, des activités qui leur permettent de gagner leur vie. Daniela Pandangila, responsable de l'entreprise Build Business, spécialisée dans la production des pâtes d'arachide.
On fait le lotoba et nous avons mis l'étiquette de lotoba, grand formant et petit formant. Une femme aujourd'hui, c'est celle qui sait chercher. Nous devons apprendre à apprécier notre pays et nous devons apprendre à consommer ce qui est bio.
Le responsable de l'ONG Rébâtisseur encourage ces jeunes à demeurer dans ces activités lucratives pour le développement économique de la province, mais aussi au gouvernement de proposer des lois qui protègent les entrepreneurs locaux. Pasteur James Biensi.
Nous devons travailler sur l'amélioration des infrastructures de base. Nous devons revisiter nos lois. C'est vrai que nous formons des médecins, nous formons des gens en économie, ainsi de suite. Mais formons les gens dans l'entrepreneuriat aujourd'hui d'une manière bien organisée, ce serait une bonne chose.
Des centaines de jeunes bénéficient régulièrement des formations sur l'entrepreneuriat pour recevoir le financement du gouvernement dans le cadre du projet Transform. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Actualité internationale. En Haïti, la violence des gangs a déplacé plus de 300 000 enfants depuis mars, rapporte l'UNICEF, ce alors que ce pays des Caraïbes s'efforce de réduire le meurtre et les enlèvements. Entre-temps, le premier ministre haïtien est en voyage aux États-Unis dans sa première visite à l'étranger depuis sa prise de fonction. La priorité pour le premier ministre, dit-il, est de rétablir la sécurité dans un pays dont la majorité du territoire est contrôlée par les gangs.
L'invité.
À Kinshasa, le centre hospitalier Mankole organise depuis le 1er juillet une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus. L'hôpital compte maintenir cette activité à long terme pour soigner plus de femmes. Pour en parler, nous recevons Dr Céline Tendobi, gynécologue obstétricienne au centre hospitalier Mankole. Elle est avec Arcel Kadjourou.
Bonjour Dr Céline Tendobi. Quelle est la cause du cancer du col de l'utérus?
Le HPV, tous les papillomavirus humains, est la cause principale du cancer du col de l'utérus. Ce virus peut être contracté par le rapport sexuel. On classe cette pathologie ou ces virus dans les groupes de pathologies sexuellement transmissibles.
Pourquoi avoir organisé cette campagne?
Étant donné que ce cancer est la première cause de mortalité en cancer dans nos milieux, nous avons voulu aussi diagnostiquer à un stade précoce les femmes avec cancer afin de les soigner et d'éviter qu'elles ne puissent développer à la longue et de pouvoir en mourir.
Pourquoi avoir ciblé cette tranche d'âge?
Nous avons ciblé les femmes dont l'âge varie entre 25 et 65 ans, tout simplement en voyant l'évolution de la pathologie. Donc on suppose qu'une femme qui a commencé les activités sexuelles une moyenne de 10 ans auparavant ou moins peut déjà être susceptible de développer la pathologie. Et donc c'est une marge qui nous permet de ne pas rater les femmes qui seraient atteintes. Et un autre groupe va commencer à partir de 35 ans jusqu'à 65 ans. Donc quand on a atteint 65 ans, normalement, on n'a plus besoin des dépistages. Et si une a commencé les activités sexuelles précocement, à l'âge de 25 ans, on peut déjà l'examiner.
Quels sont les symptômes que peuvent manifester une femme atteinte du cancer du col de l'utérus?
Au tout début, lorsque la pathologie ne s'est pas encore déclarée, normalement, la femme ne présente pas des signes. Et c'est ce que nous voulons diagnostiquer lors de notre campagne. Lors du dépistage, elle peut se découvrir malade ou être saine. Mais au fur et à mesure que la pathologie évolue, vous aurez certains symptômes comme des douleurs au niveau du bas-ventre, des saignements lors de la toilette intime, des saignements lors des rapports sexuels, des saignements lors d'un examen gynécologique et parfois lors de la défécation. Et après cela, la femme va présenter des sécrétions malodorantes, louches, parce que la maladie est arrivée à un stade très avancé.
Et que faites-vous lorsque la femme est positive au dépistage?
Lorsque la femme vient avec des lésions précancéreuses qui sont visibles à l'inspection visuelle, faisons la thermoablation pour pouvoir détruire les cellules qui sont déjà atteintes par le virus.
Quel conseil donnez-vous aux femmes pour se protéger?
D'abord, pour conseiller une femme par rapport à la protection contre les cancers du col de l'utérus, il faut voir les facteurs principaux qui sont à la base du cancer. Nous avons parlé du human papillomavirus, le papillomavirus humain. Conseiller aux femmes de ne pas commencer précocement les activités sexuelles. Et les femmes qui ont beaucoup de partenaires sexuels, donc la promiscuité, elles vous exposent à contracter le HPV et à la longue si vous ne vous faites pas soigner. À développer les cancers du col de l'utérus. Il y a également comme facteur de risque l'alcool, le tabac. Il y a également la prise des pilules œstroprogestatives de façon prolongée.
Et qu'attendez-vous par précocité du rapport sexuel?
La précocité des relations sexuelles fait allusion aux jeunes filles de moins de 15 ans.
Est-ce que les femmes enceintes peuvent se faire dépister?
Normalement, les femmes enceintes ne doivent pas se faire dépister. Parfois, nous dépistons les femmes enceintes au tout début de leur grossesse. Mais étant donné que l'imprégnation hormonale au niveau du col de l'utérus peut faire en sorte que les images puissent prêter à confusion à une pathologie lorsque la pathologie n'y est pas, nous conseillons aux femmes enceintes d'attendre après l'accouchement, la période du postpartum, environ 12 semaines après, pour pouvoir, six mois, pour pouvoir se faire dépister.
Quand est-ce qu'une femme peut encore revenir pour se faire dépister?
Alors, une personne qui n'a pas ce virus peut attendre jusqu'à 5 ans avant de se faire dépister. Le test que nous réalisons ne prend qu'une heure. Lorsque la femme se fait prélever, une heure après, elle a les résultats.
À quand la date de la fin de cette campagne?
Nous voulons que cette implémentation reste pour toujours ici à Monkole, ici à Mongafula. Nous avons les matériels suffisants et les possibilités d'augmenter la quantité de matériel dont nous avons besoin pour pouvoir continuer à les faire régulièrement. Elle doit être pérenne ici à Mongafula pour la République démocratique du Congo.
Merci à vous, docteur.
Docteur Céline Tendobi, gynécologue obstétricienne au centre hospitalier de Monkole, répondait aux questions de Arcel Kajourou. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.